Attention, vous écoutez un programme audioactif.
C'est alloué près de chez vous, bonjour. Ah oui, vous avez vu l'annonce, oui. Eh ben oui, on l'a. Ouais, tout à fait, je vous le mets de côté. Ouais. Bon, je peux même vous le vendre, si vous voulez. C'est un petit peu cher, hein. Mais je peux vous le vendre, il n'y en a pas beaucoup, mais... Ouais, je vous le fais à 400. Ou alors en location. Mais c'est très demandé, donc c'est 4 fois le prix. Ouais. Si je vous assure, c'est la vraie adaptation du bouquin de Bruno Le Maire. Tout à fait. Ouais. Alors je vous préviens, le titre n'est pas le même, hein. Mais ça c'est normal. C'est une adaptation. Il y a un travail d'adaptation. Mais faites-moi confiance. Vous le regarderez. Vous en verrez, hein, du dilaté comme jamais. Ouais, tout à fait. Donc vous le prenez comment là, en location, et si ça vous plaît en achat, très bien. Et si ça vous plaît vraiment, sachez que j'en ai plusieurs adaptations, hein, du livre de Bruno Le Maire, donc n'hésitez pas à revenir dans ces cas-là. Ouais, vous passez à 17h. Parfait. Eh bien écoutez, à tout à l'heure. Allez, bonne journée. Ouais.
Salut Ron.
Salut Nico. Comment tu vas?
Bon écoute, ça va, hein. Les beaux jours reviennent. L'envie de cinéma est toujours là. Et toi, comment ça va?
Ça va super bien. J'ai trouvé une astuce pour me faire de la thune, un truc génial.
C'est vrai?
Ouais, j'ai fait courir le bruit que j'avais des cassettes de l'adaptation du bouquin de Bruno Le Maire. Je suis en train de refourguer un vieux stock de films Colmax ou des trucs comme ça, des vieilles VHS porno qui traînaient, dont j'avais pas quoi foutre. Je suis en train de me faire des couilles en or, tu vois. Des couilles dilatées comme jamais, même si...
Ah
si
bah, écoute, hein.
Il faut profiter,
trop d'argent.
Faut profiter de la connerie des gens. À un moment donné, il faut aussi un petit peu.
Il ne faut pas penser que les gens sont cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
Et exactement. Puis ça permet de faire tourner le vidéoclub, l'air de rien. Hein, franchement, quand je vois le stock que j'avais qui prenait la poussière, là, ils vont se taper des vieux trucs. Je suis sûr qu'ils seront contents en plus, donc bon.
Oh bah oui.
Les premiers retours sont très bons, hein, en tout cas, les gens sont très contents et me demandent des nouvelles adaptations du livre de Bruno Le Maire. C'est un vrai business là, qui est en train de se faire.
Ah bah dis donc. Après, il y aura plus qu'à lancer celui sur Marlène Schiappa et c'est bon.
Ah bah tu lis dans mes pensées, j'ai mis mon stock de côté là pour pour l'adaptation de Marlène Schiappa plus tard. Bon. Alors, qu'est-ce que tu me ramènes déjà? Je me rappelle plus ce que tu m'avais pris.
Eh ben, je te ramène deux VHS. Je me suis fait une petite soirée spéciale. The House of the Devil et Your Next. Deux titres anglais qui n'ont pas été traduits. Je me suis fait une petite soirée film d'horreur.
T'as dû bien t'amuser.
Eh ben oui, écoute. Déjà, pourquoi je t'avais loué ces deux-là, c'est que j'aime bien regarder ce qui se fait en programmation dans le cinéma de Tarantino, je sais pas si tu en as déjà parlé, il s'appelle le New Beverly,
ouais.
Et tous les mois il diffuse le programme et il y avait une soirée spéciale avec ces deux films-là, et je me suis dit je les ai jamais vus, l'idée est bonne, allons-y, faisons une petite soirée spéciale avec les VHS spécial Shadows là, distribués par Shadows, écoute, tout est possible, et donc j'ai pu lancer ces deux films et qui étaient des découvertes pour moi.
Ah, tu les avais jamais vus, tu connaissais pas?
Alors, je ne connaissais absolument pas The House of the Devil. En revanche, j'avais déjà entendu parler plus ou moins de Your Next, qui a une petite réputation dans le milieu de l'horreur. Mais j'avoue que The House of the Devil a été clairement la découverte, parce que je ne connaissais rien du tout. Donc, c'est un film qui est sorti en 2009. Et ça raconte l'histoire, donc je te le fais rapidement, mais en 1983, il y a une étudiante un peu fauchée qui accepte un job de babysitter un peu étrange et qui coïncide avec une éclipse de lune totale. Et au fur et à mesure de la soirée, elle se rend compte que ses clients cachent un secret un petit peu terrifiant, dirons-nous, pour ne pas divulgacher plus que ça.
Ça a dû te faire drôle de le découvrir, celui-là, hein.
Eh ben, écoute, j'avoue que ce qui a été assez agréable, c'est déjà de lancer un film sans absolument rien connaître. Donc déjà, j'avais absolument aucune attente sur ce film-là. Donc c'est toujours le meilleur moyen pour être agréablement surpris,
c'est
ce qui a été quand même mon cas. Et d'autant que c'est un film de Ty West. Et pareil, je n'ai jamais vu. Enfin, c'était mon premier Ty West. Je n'avais pas vu de film de lui. Et c'est un monsieur aussi qui a une petite réputation dans le cinéma d'horreur. Il commence un petit peu à se faire un nom, même si c'est pas le nom qui revient le plus souvent. Mais c'est vrai que c'est un nom que j'avais déjà vu passer, sans spécialement m'intéresser à la carrière du monsieur. Et en regardant un petit peu, il avait fait la suite de Cabin Fever, par exemple. Mmh. Il avait fait The ABC of Death, qui était un film à sketch.
Oui.
Et il avait fait surtout VHS.
Voilà aussi.
Il a fait un segment dans VHS, un film que j'avais pour lequel j'ai un bon souvenir.
Ouais, qui était très sympa, tout à fait.
Qui est très sympa. Et donc ça a été une découverte pour moi, et d'autant que le film est vraiment basé en hommage aux films d'horreur des années 70-80, et dès les premières secondes du film, de toute façon, tu es clairement dedans. Le premier truc qui m'a... Il y a deux trucs qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai lancé le film. Tout d'abord, ça a été la typologie qui était utilisée pour le titre, qui fait vraiment film des années 70, type ouais. Massacre à la tronçonneuse, etc. Et les cadrages pour la caméra, où il y a plusieurs plans, où j'avais vraiment l'impression de voir des films de Toby Hooper ou ce genre de choses, avec... Le plan très connu de Massacre à la tronçonneuse, qui est le plan un peu en contre-plongée au niveau des fesses de la d'une des héroïnes
quand
qui arrive dans
la maison ouais.
Exactement, et qui est plus ou moins refait de manière un peu plus soft, dirons-nous, sur ce film là disons que sur les plans utilisés, on sent déjà qu'il s'est beaucoup influencé des films de cette époque-là, en reprenant déjà des plans et même un rythme, une histoire. Enfin, je veux dire, quand j'ai regardé le film, il y a quelque chose qui saute aux yeux déjà de base, c'est que il n'y a pas de grosse surprise. On n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. On est clairement dans un film d'horreur comme ils auraient pu être faits dans ces années-là, et où parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup actuellement, c'est de, vu que les codes très souvent dans beaucoup de genres de films sont connus, maintenant on essaye de jouer avec ces codes-là. Tu t'attends à quelque chose, et ben tiens, je vais t'amener sur autre chose et tu vas te faire avoir. Et là, clairement pas, on est vraiment sur une histoire standard d'une babysitter, donc qui était l'un des jobs les plus dangereux de l'époque.
C'est clair.
Entre ça, Halloween, et etc., tu te dis qu'il faisait pas bon d'être babysitter dans les années 70. Et du coup, t'es vraiment sur quelque chose de standard. Y a pas de, on n'est pas là pour te réinventer l'eau chaude. Et au début, j'avais un peu peur d'être déçu par rapport à ça. Que le classicisme, en fait, soit trop présent, et que, étant donné que ce sont des codes qui sont vus et revus, qu'il y ait une sorte de lassitude, et pour lequel, du coup, il n'y ait pas d'affect sur ce film-là. Moi, j'ai un film en tête, par exemple, qui est The Ryan Initiative, qui est un film d'action qui est sur Jack Ryan, et qui est tellement vu et revu, que ce soit dans son écriture, dans ses scènes d'action, et dans tout ce qui se passe, que je m'étais ennuyé quand j'avais vu le film.
Je comprends.
Et du coup, j'avais un peu peur quand j'ai vu ce film-là, et la façon dont ça se lance, en tout cas, en me disant, je suis reparti sur un film, qui va être une sorte de slasher, on sait pas trop. Il y a un petit côté mystérieux qui apparaît quand même dedans, parce qu'on sait pas trop ce qui va s'y passer, mais sans que ce soit le point névralgique du film.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que, tu vois, moi, ce film, quand je l'ai vu, alors je l'ai vu peu de temps après sa sortie, la typo dont tu parles, moi, elle m'a fait peur, parce que je me suis dit, oh, papa, nous revoilà encore un film qui veut faire un revival années 80.
Jouer sur la nostalgie.
Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai été très vite rassuré pour les raisons que tu évoques. C'est que, moi, je trouve que c'est un des très rares exemples de films qui vont situer l'action dans ces années-là et qui réussit. En fait, qui réussit. Si on ne voyait pas la date de sortie, on pourrait très bien penser que effectivement c'est un film de 82. ou de 79, enfin dans ces eaux-là.
Tout à fait.
Sauf que le traitement finalement plus moderne, il arrive plus tard, et là je donne beaucoup de crédit au réalisateur, parce que le rythme que tu décris, moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment le rythme qu'on a dans les films de cette époque, sauf quand ça appuie sur l'accélérateur, où là on a une caméra qui d'un seul coup devient beaucoup plus mobile, beaucoup plus énergique, ce qui n'était pas le cas hein, dans les films de cette époque, c'était pas l'approche qu'il y avait, et les deux fonctionnent super bien, et même c'est même au-delà, je trouve que l'effet de la fin est en particulier renforcé par tout ce qu'on a eu avant.
Le climax final, il est quand même chaud. Vachement, enfin, il est super chaud. Moi, c'était un point sur lequel je voulais appuyer après, c'est que moi, le climax final, il me met mal à l'aise. Et c'est ce que je trouve vraiment bien, c'est que il y a une vraie réflexion sur le rythme du film, c'est-à-dire que pendant vraiment une grande partie du film, donc c'est un film qui dure une heure et demie, donc qui est vraiment pas qui est pas long.
Pas de gras.
Et pourtant, je trouvais que le début du film prenait vraiment son temps, peut-être un peu trop, tu vois, j'avais un sentiment de où ça s'étirait un petit peu sur la présentation du personnage, vraiment, et je voyais pas vraiment où ça voulait en venir. Et en fait, c'est quand tu regardes la structure complète du film, et ben ça rajoute de l'explosif entre guillemets, même si c'est un terme qui n'est pas forcément, enfin je veux dire, on n'est pas sur un final, on est loin du grand guignolesque qu'on peut avoir dans certains films.
Non, mais le malaise est là quand même.
Exactement, le malaise du coup est amplifié par le fait que t'étais sur quelque chose de très lent. C'est quelque chose qui infuse en fait, parce que t'as une longue présentation, ensuite tu as un côté, il y a le milieu de film où t'as une vraie étrangeté en fait pendant tout le film, parce que il y a un petit côté, tu te poses la question de qu'est-ce qui peut se passer, et en même temps tu restes sur quelque chose qui est plutôt crédible pendant un long moment.
Il utilise une astuce, moi je pense, pour ça, qu'il est très malin. C'est-à-dire que c'est vrai que on va dire la première demi-heure du film s'étire un peu. Cela étant, il est pas fou, le gars. Il sort un film qui est en 2009 où il sait qu'il y a les codes en question, qu'il y a de grandes chances qu'on les connaisse. Ce qui fait que cette façon qu'il a d'étirer le début, moi je trouve qu'elle fonctionne bien, parce que il va jouer sur l'attente, parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose.
C'est ça.
Il met une deuxième petite pièce grâce à son casting, puisque à partir du moment où tu vois la tronche de Tom Noonan,
c'est ça.
Je veux dire,
tu sais. Et puis alors, c'est marrant parce que je disais qu'on jouait pas forcément avec les codes, et pourtant il joue un petit peu. C'est-à-dire que elle va faire du babysitting, mais il y a un ressort scénaristique qui fait qu'elle ne sait pas conduire, donc c'est sa meilleure amie qui l'amène. Et la règle qu'elle se donne quand elles sont dans la voiture et qu'elles y vont, parce qu'elles se rendent compte que c'est très excentré et que c'est en pleine forêt, elles se disent, s'ils sont un peu étranges, si on sent un malaise, on s'en va. Quoi qu'il arrive, on s'en va. Et plusieurs fois, la meilleure amie dit, non, je le sens pas, on s'en va. Chose qui normalement ne se disait quasiment pas. Dans les années 70, très souvent, les personnages étaient un petit peu benêts, il y avait un peu un
c'est
côté
ça, beaucoup
bon
de naïveté.
On y va,
quand même. Oui, alors que là, ça marchande. Une vraie naïveté. Hein. Ça marchande hein, avant d'accepter. Hein.
Exactement.
Et je trouve qu'il est fort, parce que t'as donc Tom Noonan qui, enfin, tu sais, dans l'inconscient collectif, il a joué tellement de rôles de méchant et de tordu qu'en fait, tu le vois, tu sais que ça va être compliqué. Et la façon dont il s'exprime est assez géniale. Il est ultra poli. Ultra prévenant, il y a un
et en même temps
là-dedans.
Tu sens qu'il y a un truc, tu sens qu'il y a une sorte de cocotte minute. C'est une sorte de cocotte minute. Il y a deux trois moments où il s'énerve et tu sens qu'il essaye de se retenir et ça rajoute en fait au malaise, parce que déjà tu apprends que le babysitting, il est un peu étrange, j'en dirai pas plus, mais il est un peu particulier, et enfin il y a beaucoup de choses comme ça. Vraiment où tu sens une vraie écriture et un vrai amour pour t'emmener là où il a envie de t'emmener. Ouais. Et je trouve ça vraiment bien fait.
Et je pense que ça joue énormément sur la maîtrise du rythme. Parce que cette façon dont ça s'étire, là, t'as un point de bascule quand même, où il y a un truc qui est très malin, c'est qu'il y a une explosion de violence à un moment donné qui est, tu sens un peu venir, mais qui est vraiment soudaine quand même. Hein.
Non, pour être franc, c'était un des points aussi que je voulais souligner, parce que pour le coup, celle-là, ça a été une vraie surprise pour moi. Et c'est-à-dire que j'ai beau regarder pas mal de films d'horreur, j'ai été surpris. Comme tu dis, il y a un truc. Tu sens
un truc,
que ça va pas.
Il y a un truc.
La plupart des personnages, tu sens que c'est pas net. Tu sens que dès que tu vois quelqu'un qui apparaît, tu dis il y a un truc qui va pas. Et pourtant, la scène dont tu parles est d'une gentillesse.
Oui.
Il y a un côté très prévenant. Et en fait, c'est tellement soudain que moi, ça m'a surpris parce que je trouve que c'est suffisamment bien fait, bien écrit et bien amené pour te surprendre. Et oui, c'est pour moi, c'est le point de bascule parce qu'après, ça s'accélère.
Et
c'est là
génial.
Où le rythme,
et ce qui est
le
fort.
Rythme s'accélère.
Attends, non, c'est même encore mieux que ça, je trouve. Parce que t'as ce point de bascule, t'as une explosion de violence et on pourrait penser qu'à partir de là, on va y aller pied au plancher. Mais non, on retourne dans une zone d'attente derrière
oui,
cette scène. Sauf que là, notre perception, elle est totalement différente puisque maintenant, le doute n'est plus permis. On sait très bien, en gros, que voilà, là, c'est pas un énorme spoiler que ça ne va pas très bien se passer. Je veux dire, là, il y a plus de surprise. Et quelque part, d'avoir fait ça, je trouve que c'est particulièrement intelligent parce que donc on a une violence qui est très forte sur un instant T et le calme qui arrive derrière nous met dans une espèce de position de fois d'intente et d'inquiétude quand bien même l'héroïne n'est pas encore elle au top de l'inquiétude hein. Mais nous on l'est pour elle hein, pas de problème quoi.
Elle est déjà dans un environnement un peu particulier et c'est surtout que ce qui est assez fort c'est que il y a quelque chose de très réel en fait dans cet acte de violence dans le sens où dans la vraie vie quand il y a des actes violents très souvent ça va être quelque chose de soudain et c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Nous on
ouais,
est habitué
ouais.
Quand on regarde des films d'action d'avoir des fusillades qui durent 25 minutes etc. Donc c'est clairement quelque chose de cinématographique. Là on a une violence qui est beaucoup plus naturel dans le,
ouais,
dans
sec,
le
hein.
Déroulé, j'ai envie de dire. C'est ultra sec et c'est quelque chose, une fois que c'est fait, on repasse à autre chose. Et c'est vrai que ce côté-là, eh ben pour moi, ça marche. Et il y a un deuxième point
ouais,
moi, qui m'a marqué, c'est le sound design.
Ouais.
Donc c'est l'utilisation du son. Et pour être franc, je crois que mon caisson de basse n'a jamais autant vibré que sur la scène finale qui est pour mettre mal à l'aise je pense que on est vraiment très bon
c'est très tendu
parce qu'à partir du moment où le rythme s'accélère pour le coup j'étais en apnée sur les 10-15 dernières minutes à partir du moment où tout commence à s'expliquer et il y a vraiment tout est fait à ce moment-là pour te mettre mal à l'aise.
C'est ça.
Je veux dire, le jeu de lumière est fait pour te mettre mal à l'aise, le son est fait pour te mettre mal à l'aise. Enfin, voilà, c'est...
Bah, tu vois, moi, je suis content que ça t'ait plu, parce que c'est un film que j'adore, mais il y a encore, moi, deux points qui m'ont vraiment plu dans ce film-là. J'aime beaucoup l'actrice qui a été choisie pour faire la babysitter parce que ils sont pas allés du côté de la bimbo quoi. Enfin, elle est pas vilaine, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais c'est un peu la fille du coin de rue, quoi. Ça pourrait être ta voisine, tu vois. On est avec quelqu'un qui est normal.
C'est un peu la Laurie Strode en fait, si tu regardes.
Ouais,
elle est normale.
Cette jeune femme. Et l'autre truc que j'ai adoré et qui m'avait fait beaucoup beaucoup de bien quand j'ai vu ce film là. C'est que, comme tu l'as dit, il dure 1h30. Il n'explique pas grand-chose.
Absolument rien même.
Avec une écriture, j'allais dire, de d'aujourd'hui, quoi, avec ce qui est péjoratif quand je dis ça, mais bon, je l'assume. Déjà, le film aurait duré 34 minutes de plus.
Pour
on nous aurait expliqué énormément de choses. Et là, on a la démonstration que ce n'est pas nécessaire. Le quand on a une écriture qui est maîtrisée, il y a des cailloux qui sont posés pour qu'on puisse comprendre le déroulement. Mais ce qui se passe très exactement, ben non, effectivement, on connaît pas les détails. Alors ils sont écrits, par contre, c'est là où on le sent, parce que on sent que c'est écrit, c'est montré à l'écran, mais on va pas dire alors je fais ceci parce que cela, etc. Ce n'est pas nécessaire. Et moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Cet aspect-là, qu'on ait quelque chose finalement de resserré sur peu de personnages, alors il y a peu d'environnement, c'est un petit film, hein, donc mais de pas aller se perdre dans des chemins pour rien finalement. Là, on a ce qu'il faut, pas plus. Et je trouve ça bien parce que
il y a pas de gras, ouais.
Il y a pas de gras. Et en fait, ça sert le film et ça montre que trop en dire, c'est pas forcément quelque chose d'efficace, et même quand on est sur un film qui veut faire peur, à mon sens, c'est même plutôt contre-productif. Parce que on est le fait qu'on n'ait pas non plus le petit manuel de la description de tout ce qui se passe exactement, fait qu'on est, on se pose les mêmes questions que l'héroïne. On est tout autant perdu. Elle a pas la notice, elle non plus, en fait, hein, sur ce qui se passe là. Donc on va penser que c'est ça, on va se faire une projection. Il y a une image, bon, pareil, à un moment donné qui est assez perturbante, où tu vois des gens a priori morts, autre chose, mais d'où ils sortent, quoi. Eh ben on le saura pas, et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance, mais ça met toutes les pierres qui sont nécessaires pour qu'on puisse se sentir dans la peau de cette jeune femme. Et moi, je suis très amateur de cette écriture où on n'est pas obligé de tout savoir, et ce qui nous permet de nous concentrer sur le ressenti qu'on a avec l'héroïne.
C'est exactement
ça. On est
ça.
Perdu comme elle. Ça marche très très bien. Donc, ouais, je suis content que ça t'ait plu. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. The House of the Devil.
Ah bah là pour le coup ça a été une vraie découverte parce que comme je te dis, j'avais jamais vu de film de Ty West, et or particulièrement celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Et puis c'est le genre de film qui, enfin, il a un nom plus que générique, donc
c'est
il
clair.
A pas un nom qui claque et qui va faire que tu te dis ah tiens, ça a l'air sympa, je vais peut-être regarder ce que ça vaut. Il a vraiment un nom de série Z que tu pourrais choper au fin fond d'un catalogue de SVOD.
Ouais. Ça sent l'amour du cinéma quand même, hein, quand tu regardes un film comme ça.
Tout à fait.
Là, parfois, on a l'habitude de le dire, la sincérité, elle se sent sur un écran, quoi.
Bah, là, tu sens que il y a une véritable envie de faire un hommage au cinéma de cette période-là, mais en ayant les codes et sans se moquer des codes. Et je trouve que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai pas senti de cynisme quand je vois ce film.
Exactement.
Là, je sens pas une sorte d'opportunisme de se dire bah tiens, le fait de les films qui font référence aux années 70-80 sont quelque chose qui est vendeur, je vais y aller, je vais mettre trois références avec tiens une affiche de SOS Fantôme parce qu'ils vont passer devant un cinéma, ouais. Et ce genre de truc, là il y a absolument rien, enfin c'est juste des personnes qui se téléphonent avec un téléphone à pièces. Je trouve quand même qu'il y a quand même un côté assez intemporel, un peu comme pourrait l'être The Thing, c'est-à-dire que tu sens que c'est un film d'époque, mais en même temps, tu peux pas totalement le situer sur une époque, parce qu'il est tellement universel que du coup...
Ou comme Massacre à la tronçonneuse, hein, où
exactement.
Il fonctionne en tant que tel. Et le fait de ne pas avoir forcé le trait permet ça aussi.
Exactement.
Très, très clairement. Ouais, bon, écoute, il est cool. Je suis content que ça t'ait plu, ça.
Donc écoute, celui-là, j'avais pas forcément d'attente particulière, donc ça s'est très bien passé. Par contre, j'avais un peu plus d'attente sur le deuxième film, donc Your Next, qui est un film de Adam Wingard. Alors celui-là est sorti en 2013, un peu plus tard, et ça raconte l'histoire d'une réunion de famille qui tourne brusquement court lorsqu'une une attaque a lieu dans leur demeure. Avec des tueurs masqués, de masques d'animaux, des cochons, des moutons, ce genre de choses. Et les tueurs n'avaient juste pas envisagé Kérine, la petite amie qui est ici pour rencontrer sa belle famille. Et eh bien, sous ses airs d'innocente petite amie, était en fait une final girl complètement déchantée avec son histoire. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un point que j'ai trouvé ultra intéressant et que je trouve très malin dans l'écriture.
Ouais, moi aussi. Enfin, je pense que je vois à quoi tu fais référence. Et je trouve ça très
la, façon dont la façon dont ils expliquent son comportement, Et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait sur le film précédent, c'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, on n'a pas besoin d'en faire 3 tonnes.
Ouais, j'ai beaucoup aimé.
Là, elle balance juste 2 phrases qui t'expliquent et tu fais « Ah ouais, mais en fait, les gars, you fuck the wrong Mexican, quoi. Vous avez juste déconné avec la mauvaise fille. » Et c'est suffisamment intelligent. Alors celui-là, j'avais un peu plus d'attente, parce qu'il a un peu plus de... Dora, il a une réputation un peu plus. Il est un peu plus connu que le précédent. Et j'ai quand même bien aimé aussi. Hein. J'ai pris mon pied, moi, devant ce « Maman, j'ai raté l'avion » version survival film d'horreur.
Ouais, c'est un home invasion, hein, dans pur jus, quoi.
C'est ça.
Et, c'est un style que j'aime bien, le home invasion. Personnellement, j'aime bien. C'est un peu comme les films de zombies. Je trouve qu'avec le canevas du home invasion, on peut raconter beaucoup de choses différentes. Il y a vraiment plein d'angles possibles. Et c'est ce qui fait que j'en veux toujours comme je suis assez bon public pour le home invasion, j'hésite pas à en regarder. Je suis toujours un peu énervé quand je vois qu'il y en a qui en font un, mais qui est banal, quoi. Je fais, mais enfin, bon sang, il y a quand même plein de possibilités, entre l'identité des agresseurs, des agressés, entre l'unité de lieu. Enfin, il y a plein de choses à faire, en fait, avec ça. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal, pour ça.
Ah bah moi j'avoue que j'ai pris mon pied, hein, parce que déjà c'est sanglant comme on l'aime, hein, quand il décide d'y aller
ça
sur les mises à mort, on n'y va pas à moitié, donc film interdit aux moins de 16 ans, donc on sait où on met les pieds en tout cas, et puis il y a une certaine inventivité, hein. Attends, soyons francs, on le dit souvent
dans
les films
d'horreur. Avant que tu me racontes ça, parce que bon, y a un truc qui m'amuse avec ce film. C'est que, surtout quand t'as un peu l'habitude de regarder des films d'horreur, c'est un home invasion, donc tu te doutes quand même vaguement de ce qui va se passer. Moi, ce que j'ai adoré au début, c'est que t'as tellement de personnages que tu dis « Ah ouais, ça va y aller dans celui-là ». C'est obligé, en fait. Parce qu'ils sont trop nombreux à table pour qu'on assiste pas à un truc.
Et puis, il y avait un autre indice qui va dans ce sens-là, c'est que très souvent dans les films d'horreur, les premiers et ceux qui meurent, et surtout de manière très sale, sont ceux qui ont des caractères de merde. Et, soyons francs, il y a vraiment pas beaucoup de gentils autour de la table. T'as l'impression que c'est tous des... Enfin, ils sont tous pourri gâtés, ils sont tous en train de s'engueuler, ils se parlent mal, machin, truc chouette. Et donc, tout est fait pour t'emmener là-dedans. Et c'est marrant parce que on est vraiment sur l'exact opposé du film précédent. On l'a dit, sur le film précédent, il y a très peu de personnes. Le casting est vraiment resserré, vraiment petit. Et là, on est vraiment sur l'inverse. C'est-à-dire que on n'est pas sur une réunion de famille avec 2 parents et 2 enfants. On est sur une réunion de famille avec les 2 parents. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, 3 enfants. 3 ou 4, je ne sais plus. 3 enfants plus les conjoints de chaque enfant. Ce qui fait une ribambelle de personnes. Et c'est ultra jouissif. Enfin, moi, ce que je te disais, c'est que dans ce genre de film, nous, ce qu'on attend, c'est de l'inventivité au niveau des mises à mort. C'est de l'inventivité dans ce genre de choses. Et là, il y en a. Il y en a, il y a des surprises, il y a des mises à mort qui se font de manière soudaine.
Il y a même Ty West qui joue, hein, dans le film.
C'est une sorte de... Il y a Ty West et un des autres acteurs qui... alors, il faudra que je retrouve le nom. Et qui joue le point de bascule du film précédent. Et qui joue un des frères aussi. Donc, c'est un des acteurs...
Ah oui, t'as raison. Maintenant que tu me le dis...
Le frère, d'ailleurs, assez insupportable au début.
Ouais.
Le petit chouchou qui veut toujours bien se faire voir en disant « Papa, regarde, papa, regarde », et qui n'hésite pas, en fait, à enfoncer tout le monde, et donc sa propre famille, pour bien se faire voir.
Puis il y a Barbara Crampton.
Et c'est vrai que le casting est vraiment bon. Dans ce genre de film, ce qui est difficile... C'est de savoir... Alors, on parlait du côté un petit peu mystérieux qu'il y a dans le premier film. Et ben, c'est un peu la même chose ici. Parce qu'il y a dans ce genre de film, en Home Invasion, t'as 2 solutions. Soit il y a y a un véritable but derrière l'attaque des personnes, soit on est sur juste des psychopathes qui viennent et qui font qui viennent tuer les gens dans leur maison. Et donc la grande question à chaque fois, c'est de savoir, est-ce que je suis sur un canevas classique juste de deux psychopathes ou plus, ou est-ce que je suis sur un film à tiroir avec les petits twists. Et moi, je trouve toujours ça très intéressant, même si des fois, tu les sens un peu venir. Et j'avoue que sur celui-là, je l'ai un peu senti venir.
On le voit venir quand même, ouais.
Peut-être parce que, pour le coup, on a vu beaucoup de films de Home Invasion et que c'est des ressorts qui sont quand même vachement utilisés. Donc, j'ai eu plus de surprises sur le Ty West, sur The House of the Devil. J'ai eu vraiment deux scènes dans The House of the Devil où j'ai décroché la mâchoire de surprise, là j'étais plus sur un côté sale gosse, prendre du plaisir à voir qui va être le prochain et la façon dont ça va se passer.
C'est clairement l'approche qui est prise dans l'écriture du film, parce que le sur c'est beaucoup moins fin en termes d'écriture. La présentation des personnages est quand même assez grossière. Comme tu dis,
après tu l'as dit, il y a trop de personnages. Donc tu peux peut-être pas te permettre de faire autant de présentations.
Je suis d'accord, mais quelque part c'est un aveu d'entrée de jeu. Tu peux pas être aussi, c'est un peu balourd quoi même. C'est tellement stéréotypé qu'à un moment donné tu dis ouais ok. Là, ce qui est pas forcément un mal non plus, ça dépend quel est le but du film. Là le but, clairement, c'est d'essayer de faire une introduction la plus rapide possible pour rentrer dans le vif du sujet. Et il y arrive très bien, justement, parce que
rentres très bien dans le vif du sujet.
L'attaque à l'arbalète, elle est quand même top. Et je trouve que c'est super, parce qu'en fait, là, le sens du rythme est plutôt bien maîtrisé, puisque finalement, au moment donné où tu te dis putain, je suis en train de me regarder là, un B bas de gamme, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et boum, ça démarre. Je crois, ah yes, c'est parti. Et clairement, soyons clairs. On sort le pop-corn.
Exactement.
On sort le pop-corn. C'est le but du film, là. C'est un film où on sort le pop-corn. Parce que finalement, on voit bien que ils sont partis dans un délire où on va essayer de faire preuve au maximum d'imagination pour varier les plaisirs. Donc, ça se sent assez vite. Donc, du coup, on est forcément curieux de voir comment ça va se passer. Exactement. Au gré des victimes. Je trouve que le décor est très chouette. La maison, ça fonctionne très bien. Et l'idée des masques, qui est pas l'idée de l'année, hein. C'est acheté au magasin du coin peut-être, mais ça marche. Ça marche.
Ouais, moi, un truc tout bête, mais je veux dire, arriver à te faire peur avec une tête de brebis. Moi, le mec qui débarque avec un masque de tête de brebis et une arbalète, excuse-moi, mais je suis terrorisé du bonhomme, quoi. Et pourtant, tu ne vois pas le.
C'est ça. T'as perso, même pas quoi. Le temps de te demander, ils auraient peut-être pu venir avec des flingues, quoi. Je dirais, ça aurait peut-être été plus efficace, je sais pas.
En fait, ce qui est assez fort dans ce film-là, c'est que tu l'as dit, on part sur l'efficacité. On est vraiment, il y a vraiment des ressorts scénaristiques qui sont un peu particuliers. C'est du vu et revu. Il y a alors le coup du téléphone qui sonne alors qu'on est caché. Il y a plein de leviers de films d'horreur qu'on a déjà vus. Seulement, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que ça marche bien dans le sens où ça nous rajoute de l'action, ça nous permet d'avoir une écriture sur notre film et de pas être sur quelque chose de plan-plan. Mais c'est pas le principe même du film. Tu l'as dit, le principe c'est de sortir le popcorn et de regarder les mises à mort et de savoir qui sera le prochain et la façon dont ça sera fait. Et puis, point important, il y a quand même 2-3 passages où la tension est très bonne.
Elle est bien gérée.
Quand il y a un doute s'il y a un intrus dans la maison, il y a 2-3 scènes où tu te poses la question, même si tu te dis bah oui, ça doit être évident, il doit y avoir quelqu'un, tu sais pas à partir de quel moment ça peut débarquer, de comment ça va débarquer. Et moi je trouve que c'est le montage et le rythme est vraiment très bon, et à aucun moment tu t'ennuies malgré des ressorts scénaristiques bateaux et des fois des actions qui sont un peu bêtes,
qui sont discutables. Alors c'est même là où Your Next s'en sort, parce que il est obligé d'être sur un rythme très soutenu pour qu'on n'ait pas trop le temps de s'arrêter sur des réactions
de réfléchir
un peu stupides,
sur les problèmes.
Quoi. Parce que franchement, il y a des passages, comme c'est un film que j'ai déjà vu, en fait. Donc quand tu l'as déjà vu, tu sais, que tu le revois, tu te dis, elle est où? Non, elle est en train de se reposer dans sa chambre. Non. Non, vous êtes dans une situation d'assaut
attaque.
Là en fait. Hein. C'est pas possible de dire un truc pareil. Quoi. Ça ne marche pas. Enfin, il y a des trucs comme ça qui fonctionnent pas très bien. Mais c'est vrai que sur un premier visionnage, en fait, ça glisse tout seul parce que t'as pas le temps. T'as pas le temps de te dire. Là où c'est malin, c'est qu'en tant que spectateur, t'as pas trop le temps. Mais ça tient la route parce que les personnages n'ont pas le temps non plus. De s'arrêter sur une situation un petit peu étrange où on pourrait se poser quand même des questions. Ben en fait non, les actions s'enchaînent, donc c'est comme dans la vraie vie, hein, quand t'es sans arrêt dans l'action, ben oui, tu passes à côté de choses qui seraient évidentes si tu prenais un petit peu ton temps pour t'arrêter et les regarder. C'est un petit peu ça qui se passe, et du coup ça il y a une espèce de vent de bonne humeur dans ce film, enfin de bonne humeur, il y a beaucoup de morts, hein, donc on met bonne humeur avec des guillemets, mais je veux dire,
je vois ce que tu veux dire. Ouais
il y a
un côté euphorique en fait,
ouais, c'est ça,
que il y a un véritable rythme, et une fois que, alors on parlait du fait d'accélérer sur le film précédent, là l'accélération elle a lieu dès le premier quart d'heure, dès les 20 premières minutes, et pareil on est sur un film d'une heure et demie, donc on est sur quelque chose de très resserré, donc
mais ce qui fait que du coup c'est risqué, hein, le pari est un petit peu osé. Parce que quand tu démarres tout de suite l'accélérateur, ben ouais, c'est au bout d'un quart d'heure quoi que ça commence.
Il reste
une heure et quart à tenir sur le même rythme, et que si t'es pas capable de maintenir le même rythme, ben ça va pas marcher. On va s'ennuyer à un moment donné, on tombe dans une routine, le truc est assez risqué, et je trouve qu'il s'en sort pas mal du tout pour tenir ça sur la distance.
Et puis il y a des beaux plans. Moi, j'ai en tête là l'image où on la voit filmée. Elle est à l'intérieur de la baraque avec la hache. La caméra est en extérieur. Et je trouve que il y a un vrai travail de mise en scène. Il y a une vraie. C'est vraiment beau. Et on est avec les personnages et l'héroïne.
J'ai une petite réserve moi là-dessus. Voilà. J'ai une petite réserve.
Ah, moi, je l'aime bien l'héroïne.
Pas sur l'héroïne. L'héroïne, alors j'ai pas du tout de réserve, même je trouve ça particulièrement malin de comment elle s'en sort, de qui elle tient le crédit pour s'en sortir. Tu sais, c'est à un moment donné, c'est un machin. J'irai pas jusqu'à dire ça remet les pendules à l'heure, mais ça remet un petit peu les choses en perspective, en tout cas.
Bah en fait, c'est là où tu te dis que je viens de le dire, qu'il y a plein de ressorts scénaristiques qui sont ultra bateaux. Le coup du téléphone qui sonne, le coup du père à un moment qui dit je vais aller aider un tel qui est et donc il s'est part, etc. Et du coup, à chaque fois, tu dis, mais c'est complètement bête parce que ils font quasiment beaucoup d'erreurs ou de clichés de films d'horreur. Et t'as deux, trois petits passages d'écriture qui sont super fins, tel ce passage-là. Et tu dis, en fait, ils sont pas si bêtes que ça. Donc, si les trucs sont bateaux et c'est que c'est pensé et que c'est réfléchi et qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient te mettre ça.
Je suis assez d'accord. Non, mais j'ai deux petites réserves sur ce film qui sont formelles en fait. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir en le regardant. Hein. Mais à l'inverse de The House of the Devil, je n'aime pas le sound design de Your Next. Enfin, je n'aime pas. En fait, il a aucun intérêt quoi.
Le The House of the Devil, le sound design est quand même particulièrement réussi.
Il est d'un très bon niveau. Mais là dans Your Next, on est dans ces films. Où finalement il y a pas de musique, où on est que sur du sound design qu'on a entendu et réentendu et réentendu. Alors est-ce que ça fait le job? Oui, ça fait le job, mais je suis toujours chafouin
parce que je suis d'accord avec toi, du coup je l'ai regardé en 5 points, hein. Enfin rien d'exceptionnel, mais disons que quand c'est bien fait. Et particulièrement les scènes où des personnages courent dans une forêt ou sont cachés, tu pourrais jouer sur le son, sur une branche qui craque à droite, à gauche, derrière, pour perdre le spectateur. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur un truc lambda.
Il y a pas de musique. Et moi, je l'ai regretté parce que je trouve que, alors c'est plus à la mode peut-être les thèmes, ok, j'entends bien, mais je pense qu'il y a une chier de plans, notamment sur les agresseurs, qui auraient mérité un thème. Mmh. Je pense que le film en serait sorti grandi. Bon, à la limite, c'est pas tant ça qui m'embête le plus. D'un point de vue formel, ce qui m'embête, c'est que bon, on est en 2011 et ça se voit, on a un film qui est gris. Les couleurs sont ternes et c'est quelque chose qui m'agace un peu dans les films de cette période. Moi, je trouve que ça les atténue et d'autant plus dans cette maison qui est un chouette décor quoi, où qui a beaucoup d'objets, qui a, tu vois, t'as des tapisseries, t'as des rideaux, tu peux avoir une couleur. Il n'y a pas de raison fondamentale qui fait que ce soit gris. Je veux dire, ouais. Si dans leur baraque de richou, ils ont un éclairage aussi grisâtre, putain, mais attaquez l'électricien, quoi. Personne n'a envie de vivre dans une maison terne comme ça, qui a coûté des millions à un moment donné. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est ça.
Et moi, je trouve que c'est dommage parce que cette espèce d'approche grisâtre, alors c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais on en a vraiment bouffé. Je trouve que ça, affaiblit l'ensemble, voilà, ça retire du contraste, ça retire des jeux visuels qui pourraient être intéressants avec la nuit à l'extérieur, avec des jeux d'éclairage, ça retire aussi la personnalité qu'on peut avoir dans différentes pièces, tu sais, t'as la pièce avec la teinture rouge, t'as la pièce avec ceci cela, alors c'est tout con ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça joue vraiment. Et puis, pour moi, ça m'éloigne d'un traitement réaliste, parce qu'en fait, dans la vie, personne ne vit dans des maisons grises, quoi. Je trouve ça regrettable. Alors, est-ce que c'est pas un scandale? Mais pendant que je regardais le film, je me suis quand même fait la réflexion de façon consciente en disant, mais ils sont ternes, quoi. On est dans un...
Moi, la réflexion que je me suis fait par rapport à l'image, c'est que ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est d'être attentif et d'être toujours sur le qui-vive de ce qui se passe à l'image en me disant « Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le fond ? Est-ce que machin ?» Et je me suis fait la réflexion que sur celui-ci, à aucun moment, le film m'entraînait pour faire ça. Il n'y a pas de côté ludique dans ce film-là, dans le côté du traitement de l'image. Donc, ouais, je te rejoins un petit peu.
Mais c'est, je pense qu'on n'est pas non plus, on boxe pas dans la même catégorie. Your Next est un film qui, à mon sens, n'est pas un film ambitieux. Voilà.
Ah non.
Voilà, il cherche pas à l'être. Et ça, je lui donne du crédit pour ça au moins. non, mais c'est vrai. C'est pas non plus infamant d'être un film popcorn. Un bon film popcorn, c'est très très cool. C'est très très cool.
Un film comme celui-ci qui est plutôt réussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
C'est ça, exactement. Quand ça marche, c'est vraiment agréable à regarder. J'ai juste ces petites réserves parce que je pense qu'à quelque chose près, il y avait possibilité d'arriver à un niveau légèrement supérieur à ce qui est présenté. C'est pas un acte totalement manqué, loin de là, mais on a quelque chose qui est légèrement en dessous de ce que ça pourrait être.
Après, disons que moi je comprends je comprends ton approche. Maintenant, c'est vrai que quand je lance ce film, je lance un film popcorn. Donc j'ai pas une attente aussi élevée que je pourrais l'avoir si je lançais un Shining ou un truc un peu plus respectable entre guillemets. Et ce qui fait que moi je suis clairement pas déçu, même si je comprends les réserves. Mais c'est vrai que moi je suis vraiment parti sur une série. Ah oui, non,
elles sont petites les réserves, hein, entendons-nous bien. Hein,
oui, mais
je me suis bien éclaté en regardant Your Next, hein, tout va bien.
Mais je comprends je comprends ta frustration de te dire on est quand même passé à deux doigts de quelque chose de vraiment très très bien.
C'est-à-dire
que quand on est aussi bon, quand on prend pas le spectateur pour un con, quand on sent que tout a été fait, a été réfléchi, etc., c'est dommage de se planter sur quelques détails. Et on l'a dit en plus sur le film précédent, ce qui fonctionne sur le film précédent, ce sont les détails. Parce que c'est ce qui fait que le film est beau, c'est ce qui fait que le film t'emporte, etc. Et bah sur celui-ci, bon, voilà, c'est un peu
ça
moins.
Fait, en fait, ça fait une honnête série B bien efficace.
Exactement.
Quoi.
Tout à fait.
Et ce qui est très respectable. Hein.
Ah bah alors tu veux que je te dise, moi si on me demande un film pour un samedi soir
Ah,
à
c'est parfait.
regarder avec du monde, bière pizza, c'est clairement le genre de film. Alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vous éclater, c'est pas super long.
Tu sais, c'est dans la
Il y
catégorie
a...
des trucs comme Détour mortel ou
C'est ça,
on
c'est
est
ça.
ouais, on sait qu'on va pas regarder un chef-d'œuvre, hein, ok, mais on sait qu'on va bien se marrer, qu'on va avoir du spectacle, que c'est bien gaulé.
Exactement.
Voilà, le faire du bon divertissement, c'est pas évident,
Eh ben
hein.
non.
Ouais, c'est
On
pas
se plaint
évident.
souvent des blockbusters actuels, etc. Mais parce que c'est pas aussi simple que ça. Et donc là, quand on tombe sur des films série B, série Z ou grand film ou que sais-je, eh ben oui, il faut prendre ce qu'on nous donne. Et là, eh ben on nous donne une très bonne série B. On nous donne un très bon film qui remplit le contrat,
C'est ça fait le
mais
bien
qui
le job.
voilà. Qui fait clairement le job. Donc, bah écoute, moi, très content de mon double programme.
On avait fait tout un cycle avec madame qui j'avais montré, je sais plus, je crois que c'était American Nightmare, qu'elle avait bien aimé. Et je dis, bah, si t'aimes les Home Invasion, on va s'en faire, hein. Il y a pas de problème. Moi, je suis client et ouais, elle avait bien aimé Your Next aussi. Elle avait trouvé ça cool. Enfin, comme quoi. Voilà, ça fait bon bah écoute ouais ça fait deux bons films bah là je te propose tiens je sais pas si je t'en ai parlé mais figure-toi que j'ai l'adaptation du livre de Bruno Le Maire
Alors non, pas du tout, celui-là ne me tente pas. Par contre, je vois que tu as The Innkeepers, qui est un film de Ty West aussi,
qui est pas
et
mal aussi.
qui a l'air pas mal. Donc je vais te prendre ça et je vais continuer sur ma lancée de Ty West. Tiens.
Eh ben, c'est une très bonne idée. Ben, écoute, je te laisse. Amuse-toi bien avec ça, hein, puis si tu veux, tu reviendras m'en parler.
Bah merci, écoute, hein, et puis ben essaye de vendre ton stock de VHS, hein.
Ouais, tu sais, ça part tellement bien que je crois que je vais en racheter d'autres sur en ligne pour les refourguer. Ils sont trop cons, c'est pas possible.
Oh que
Ouais.
oui.
Ouais, je te
Allez,
jure.
Rhône.
À
À
bientôt.
plus.
Salut, Nico.
Ciao.